Alexandre Aizet nous rejoint, stratégiste indépendant. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
15h45, vous allez rendre votre verdict. Ce verdict que vous allez rendre, ce moment qu'on va vivre ensemble, est-ce que vous l'assumez ?
Je l'assume, Guillaume.
On vous écoute.
Écoutez, effectivement, on a l'impression potentiellement d'enfoncer des portes ouvertes, mais je pense qu'il faut encore insister sur le fait que quand on analyse les marchés, quand on, de manière global, macroéconomique, ou quand on analyse les marchés au terme d'entreprise, l'IA est le facteur discriminant au-delà des enjeux géopolitiques actuels.
Oui, oui. Parce qu'on se disait ces derniers jours, les taux, finalement, on revient à l'essentiel, les taux obligataires qui montent, ça va remettre un peu d'ordre dans les marchés et remettre l'église ou la mairie au milieu du village. Non, ça reste l'IA, l'ultime frontière, le vrai baromètre des marchés aujourd'hui, ça reste l'IA. Finalement, plus que les taux, Alexandre ?
On voit que les taux n'ont pas beaucoup d'importance, en tout cas dans le secteur qui est celui au global de l'intelligence artificielle, hein, sous toutes ses formes et sur l'ensemble de la chaîne de production, parce que les investissements ne ralentissent pas. C'est-à-dire que normalement, une hausse des taux devrait faire ralentir ces investissements ou porter des doutes. On a eu certains doutes en début d'année sur les dettes massives qui allaient être émises par les hyperscalers notamment. Mais en fait, on voit que ce mouvement est clairement irrépressible.
Okay. Oui. Et l'IA continue d'avancer, quoi.
L'IA continue d'avancer, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est en train évidemment de capter une masse d'investissement global très importante, donc au détriment peut-être d'autres entreprises. Et puis, même quand on regarde, et là c'est pour ça que je voulais revenir sur ce sujet-là, c'est qu'à dire même à l'intérieur même des secteurs, parce que on parle beaucoup de secteurs qui sont disruptifs, on a les résultats d'Intuit par exemple, qui effectivement est dans une position où l'IA est un véritable concurrent pour son business, mais à l'intérieur même des secteurs. Prenons le secteur de la distribution. Vous avez Walmart qui publie aujourd'hui. Walmart, évidemment, qui est un peu déçu, mais les résultats sont très bons. Et Walmart a rapidement été dans le digital, puis dans l'intelligence artificielle, et crée de la valeur sur l'ensemble de la chaîne. Et pourtant, c'était un secteur où les marges étaient restées assez faibles. Et bien là, l'intelligence artificielle va lui permettre effectivement d'optimiser à la fois la logistique et à la fois l'attrait pour ses clients.
Et c'est l'IA qui a transfiguré Walmart en bourse depuis début d'année. C'est un carton.
Bien sûr. Et à côté, vous avez des concurrents du même secteur, hein, prenant Kohl's, Macy's, qui eux sont en retard et ont des performances opérationnelles qui sont extrêmement décevantes. Et le retard va être extrêmement difficile pour ces entreprises. Encore une fois, dans le même secteur, à rattraper.
Oui, oui. Donc, ça reste la matrice, effectivement. Et dans quelques jours, SpaceX qui va arriver. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les investisseurs ? Je vous pose la question parce que SpaceX, 15 jours à peine après son introduction, fera partie du Nasdaq 100. Oui. SpaceX sera dans le Nasdaq 100 très, très rapidement. Ça veut dire que beaucoup d'ETF auront du SpaceX. C'est-à-dire que des gens qui auront choisi de ne pas investir dans SpaceX en disant Elon Musk, j'y crois pas trop, Mars, c'est pas mon truc et tout, auront quand même du SpaceX dans leurs ETF, quoi. Est-ce que, de ce point de vue, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les investisseurs globaux?
Alors, tout est fait pour que l'IPO fonctionne bien et soit une IPO historique, hein. Parce que finalement, SpaceX, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est à peu près, ça va être entre 1700, 1800 milliards de capitalisation. Mais en fait, sur les marchés, on aura 75 milliards de flottants. Donc, c'est assez peu. Mais, dans les indices, et notamment Nasdaq, cela va représenter, avec le calcul que fait la société, à peu près 5 à 6% de l'indice. Donc, les ETF, pendant quelques semaines, quelques mois, vont se ruer effectivement sur SpaceX, oui, de manière passive. On voit bien l'avantage ou le désavantage de la gestion passive par rapport à la gestion active. C'est-à-dire que là, nous n'aurons pas le choix et on peut avoir des déconvenues sur à la fois d'autres valeurs et même un peu plus tard, à quelques mois, puisque il y a certains scénarios qui se mettent en place où effectivement vous allez avoir un espèce de schéma où vous allez avoir une masse qui va se concentrer sur SpaceX et faire monter potentiellement Nasdaq et SpaceX, et puis au bout de quelques mois vous aurez ceux qui sont loqués et puis les insiders qui revendront et qui mettront potentiellement de la liquidité sur le système, et on pourra avoir un retour assez déplorable de l'indice. Donc ça, c'est un scénario un peu catastrophe, mais on voit bien que cet équilibre va être complexe, en tout cas. Et on a d'autres IPO assez fortes qui vont se mettre en place. Juste, je rappelle que une société comme SpaceX de 1700, 1800 milliards de capitalisation boursière, on a déjà eu ça, on a eu Aramco. Mais Aramco, le flottant, c'était 25 milliards seulement. Là, c'est 75 milliards. Donc, ça va effectivement créer pas mal de dissensions. Ça sera peut-être, SpaceX sera au Nasdaq 100 plus important que Amazon ou Meta, par exemple, en termes de pourcentage. Et là, on voit que on va avoir une déformation complète des ETF, des coûts certainement de transformation des ETF, parce que vous mettez, vous changez pas 6%, 5-6% d'un coût dans l'ETF. Donc, on risque d'avoir de la volatilité, du bruit très important.
Oui, et du coup, alors pour ceux qui sont quand même convaincus par la thématique spatiale, et pourquoi pas SpaceX, hein, quand même, ça reste un génie, Elon Musk. Voilà, quitte à y investir, il y aura SpaceX, mais en attendant, il y a quoi? Il y a d'autres valeurs, enfin, il y a d'autres idées pour investir dans l'espace, parce que la thématique, elle a un énorme potentiel devant elle. Il y aura la, malheureusement, mais la militarisation de l'espace, la miniaturisation de l'espace, etc., etc. Tout ça, c'est pas que lié à SpaceX. Du coup, comment on fait pour investir la thématique au-delà de SpaceX?
Non, mais c'est vrai qu'il y a, bon, alors de manière classique, il y a aussi les semi-conducteurs. Hein. Dans une précédente émission, j'avais parlé notamment de les data centers dans l'espace qui sera là le niveau 3 où on aura beaucoup d'avantages en termes de refroidissement ou de calcul de l'énergie. Il y a une société aux États-Unis qui est bien plus petite, Rocket Lab, qui est un peu un mini SpaceX et qu'on a beaucoup profité, les lanceurs de satellites aussi, Eutelsat, même si on est en restructuration. Mais SpaceX, c'est pas que c'est du spatial, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est une entreprise télécom globale à la fois effectivement sur la défense, l'intelligence artificielle et puis Starlink effectivement qui va prendre le pas. Donc on a, et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est les données qui sont mises en avant, c'est-à-dire qu'on a à peu près 2500 satellites par an dans les projections, ça va être 10 000 cette année, donc il y a une accélération extrêmement.
10 000 satellites lancés chaque année.
Oui, lancés chaque année, donc c'est clairement l'objectif de SpaceX, et ça va effectivement, on change complètement, et c'est à peu près le seul acteur qui sera à cette.
Alors on va en attendant l'exponentiel, hein, des lancements de satellites, on va faire une petite addition. SpaceX plus une autre introduction attendue, Anthropic plus OpenAI, aussi attendue cette année. Ça fait trois grosses intros. Ces trois intros ajouteront à la capitalisation mondiale l'équivalent de la Bourse de Paris. Voilà. Juste ça. Hein.
En capitalisation, pas en flottant, pas en flottant, mais en valorisation. Pas en flottant, mais en valorisation. Et c'est vrai qu'encore une fois, le risque, mais on le voit aussi sur le crédit, hein, que ça soit sur les actions ou le crédit, c'est que les actions, les grandes actions américaines et notamment ces IPO sur les marchés phagocytent la liquidité mondiale au détriment effectivement de l'Europe.
Il y a plein de véhicules pour investir dans l'espace, et puis il y a les véhicules tout court. On peut y investir d'ailleurs dedans. On va revenir dans cette thématique transport, mais beaucoup plus terrestre, Antoine, parce qu'il y a un groupe aujourd'hui qui joue une partie de son avenir.
C'est Stellantis, hein, qui recule de 5,4%. On est à 6,08€. On a signé un nouveau plus bas historique tout à l'heure, sous les 6€. On était à 5,99€. La dernière fois qu'on était plus bas, ça s'appelait encore Peugeot Citroën. Donc bon, réduction de 20% des capacités en Europe. 20%. On espère que ça va délivrer cet Investors Day, parce que au bout, on ne voit pas grand-chose, à part peut-être un joli rêve de Deutsche Electric. Hein.
C'est exactement ça. Il fallait quand même arrêter la dégradation. Il fallait faire quelque chose de toute manière. Sinon, il y avait la tendance, elle était claire. Je crois qu'il y a un plan à 60 milliards. On voit bien que l'Europe n'est plus le sujet. On a quand même l'impression que l'automobile européenne a perdu la guerre contre l'électrique chinois. Je veux dire, et ça, c'est difficilement remédiable. Il faut quand même souligner que l'Investor Day se fait à Détroit. Hein, donc, Stellantis organise ces éléments de langage pour les États-Unis, où potentiellement les marges sont plus importantes. Le nouveau patron était CIO de Jeep, donc il connaît bien ce marché, et il fallait faire quelque chose. Au-delà de Stellantis, ce qui est assez à mon avis intéressant, c'est savoir comment toutes ces entreprises automobiles européennes vont essayer de se transformer. Oui. Et c'est vrai que Mercedes a commencé à en parler. L'industrie de la défense peut être potentiellement une activité qui peut redonner un peu des lettres d'or, alors ça prendra du temps, à l'industrie automobile. Et je pense que la souveraineté, la défense peut être un véritable enjeu pour ce secteur dans les années à venir.
On y reviendra, un Stellantis donc qui dévoile aujourd'hui son plan d'action, son plan stratégique, et qui sabre dans ses capacités de production en Europe de plus de 800 000 unités supprimées.
C'est énorme, ouais, et encore une fois, je crois que sur 35 terrible. Milliards dédiés aux marques, il y a plus de 60% qui va aux États-Unis. Donc on voit bien là où veut se focaliser Stellantis.
Mais c'est pas comme ça qu'on va relancer la croissance européenne. D'ailleurs, on a les indices PMI en Europe qui sont publiés aujourd'hui. Ils sont à un plus bas de, alors pour la France de 2020, le PMI des services de la France retombe au niveau quasi Covid, quoi. On est en contraction très nette.
Disons que, en fait, ce qui se passe, c'est que l'industrie en sort, s'en sort grâce au plan de relance, à la souveraineté, etc. Mais on voit bien que le consommateur est en train de plier face aux hausses de coûts et le tourisme est en berne. On a l'indicateur PMI service et démontre encore une fois l'impact très important des événements en Iran.
Le PMI service français sous les 43, au mois de mai, sous les 43, 42,9, c'est un niveau qu'on n'avait plus vu depuis 2020, l'année du Covid.
Voilà. Oui, on a vu les nouveaux calculs, effectivement, de la Commission européenne pour la croissance économique.
La baisse,
mais ça n'est peut-être qu'un début si le conflit perdurait.
Merci beaucoup, Alexandre Aizet, de nous avoir accompagné aujourd'hui, stratégiste indépendant.